VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 avril 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Michel Joseph. Tout d'abord les titres.
En Côte d'Ivoire, décision aujourd'hui de la Cour suprême sur la tenue du procès prévu le 9 mai de Simone Gbagbo.
Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar doit maintenant arriver aujourd'hui à Juba suite à un accord hier entre le gouvernement et la rébellion.
Le Caire dénonce une immixtion du secrétaire général des Nations Unies dans les affaires intérieures égyptiennes.
Le président Obama participe aujourd'hui à un sommet à Riyad avec les leaders de 6 pays du Golfe après sa rencontre hier avec le roi Salman d'Arabie Saoudite.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal.
La Cour suprême de Côte d'Ivoire va se prononcer aujourd'hui sur la tenue du procès prévu le 9 mai de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne pour crime contre l'humanité, ce qui est contesté par ses avocats. Jacques Aristide.
Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, avait été déboutée le 17 mars par la Cour suprême après avoir introduit un pourvoi en cassation contre son renvoi aux assises au motif que son mémoire avait été déposé tardivement. Maître Roderick Dadjé, un des avocats de Madame Gbagbo, rejette cet argument. Il affirme avoir déposé son mémoire dans les temps contre l'arrêt de la chambre d'accusation rendu le 27 janvier renvoyant Madame Gbagbo aux assises. La Cour suprême a été saisie une deuxième fois par la défense de Mme Gbagbo contre la décision du 17 mars. Si la décision de la Cour suprême est favorable, il n'y aura pas de procès Simone Gbagbo le 9 mai, a déclaré l'homme de loi. Une décision contraire va renvoyer l'ex-première dame aux assises pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Simone Gbagbo a été condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Son époux Laurent Gbagbo est lui actuellement jugé à la haie par la Cour pénale internationale.
Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont déclaré mercredi avoir conclu un accord pour laisser le chef rebelle Riek Machar revenir à la capitale pour former un gouvernement d'union nationale. Ce retour est une lueur d'espoir dans le règlement du conflit qui mine leur pays. Des détails avec Nanit Talani.
Le chef de la rébellion sud-soudanaise Riek Machar est attendu aujourd'hui à Juba, a annoncé l'un de ses porte-paroles, James Gadek Dak, depuis Nairobi au Kenya. Son retour, initialement prévu lundi, avait été repoussé pour des raisons logistiques, a précisé la même source. Machar et son rival, le président Salva Kiir, ont signé un accord en août pour mettre fin à un conflit de 2 ans dans lequel des milliers de personnes ont été tuées et plus de 2 millions contraints de fuir leur foyer. Le retour annoncé de Riek Machar à Juba suscite un fragile espoir de règlement d'une guerre civile de plus de 2 ans qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Il signifie la relance de l'accord de paix signé le 26 août 2015. Le texte prévoit en effet un cessez-le-feu et un mécanisme de partage du pouvoir entre les deux hommes forts du pays. C'est le limogeage de Riek Machar de son poste de vice-président par Salva Kiir en 2013 qui avait précipité le pays dans la crise depuis décembre 2013, 2 ans à peine après l'indépendance du Soudan du Sud en 2011.
En Zambie, le président Edgar Lungu a donné des ordres spéciaux aux services de sécurité pour établir la loi et l'ordre dans certaines parties de la capitale, Lusaka. Cette décision vise, selon son gouvernement, à mettre un terme aux meurtres rituels qui ont conduit à des émeutes dans certaines townships. Des jeunes ont attaqué des étrangers et leur commerce à la suite de rumeurs selon lesquelles ces derniers prospéraient grâce aux meurtres rituels.
L'Égypte a dénoncé l'immixtion du secrétaire général des Nations Unies dans les affaires intérieures du pays. Ban Ki-moon avait interpellé les autorités égyptiennes à garantir un procès transparent de 2 éminents activistes des droits de l'homme accusés de bénéficier illégalement de fonds étrangers pour leurs ONG. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou, a qualifié les propos du numéro 1 onusien de tentative d'intimidation vis-à-vis de la justice égyptienne pour influencer son travail. Mardi, le porte-parole de Ban Ki-moon avait dit dans un communiqué que l'ONU suit de près les affaires judiciaires qui visent les ONG poursuivies pour acquisition de fonds illégaux de l'étranger. Le communiqué citait nommément Gamal Eid et Osam Bargat pour affirmer leur droit à un procès transparent et équitable. La clarification du gouvernement est intervenue pendant la visite du secrétaire d'État américain John Kerry au Caire, qui s'est déplacé pour manifester le soutien de l'administration Obama à la stabilité de l'Égypte. M. Kerry a aussi précisé qu'il a discuté avec le président Abdel Fattah al-Sissi des moyens de réduire les divergences avec son régime. Depuis la chute de Mohamed Morsi, le nouveau pouvoir au Caire a lancé une implacable répression contre l'opposition, toutes tendances confondues, et de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'homme accusent M. Sissi de diriger un régime ultra-autoritaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama et le roi Salman d'Arabie Saoudite sont tombés d'accord sur l'importance d'une approche inclusive pour une désescalade des conflits régionaux. Ils ont eu hier à Riyad une réunion de 2 heures à huis clos. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a précisé que les deux leaders ont discuté des défis posés par les activités déstabilisatrices de l'Iran dans la région du Moyen-Orient. Les différences d'approche envers l'Iran et sur la lutte contre le terrorisme ont conduit à des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite.
Monsieur Obama participe aujourd'hui à un sommet à Riyad avec les leaders de 6 pays du Golfe. Hier, le patron du Pentagone a révélé que les États-Unis ont accéléré depuis un an leur coopération militaire avec les pétromonarchies inquiètes de la menace iranienne. Idriss Fall.
Ashton Carter, secrétaire américain à la Défense, s'exprimait à Riyad après une réunion avec ses homologues du Golfe. Le refus de Washington d'intervenir en Syrie pour déboulonner Bachar al-Assad et les négociations avec l'Iran, le grand rival chiite, étaient des pommes de discorde avec les monarchies du Golfe. Mais l'accélération de la coopération militaire proposée par Washington lors du sommet de Camp David semble avoir porté ses fruits. D'après le patron du Pentagone, en une année, les États-Unis ont autorisé plus de 33 milliards de ventes d'équipements militaires aux pays du Conseil de coopération du Golfe. Les patrouilles communes de navires de guerre se sont multipliées, tout comme les exercices militaires, avec un projet de défense aérienne et antimissile commun pour les 6 pays. Par ailleurs, les forces spéciales américaines et celles des pays du Golfe travaillent plus étroitement que jamais, y compris en zone de guerre. Barack Obama vient donc rassurer ses alliés de longue date à ce sommet qui se tient aujourd'hui à Riyad.
Les responsables présumés du scandale de l'eau contaminée au plomb qui empoisonne la ville américaine de Flint dans l'État du Michigan ont été désignés hier avec les inculpations formelles de 3 employés de la ville et de l'État. Les précisions de John Linden.
Il s'agit des premières inculpations depuis le début de la catastrophe sanitaire et environnementale qui choque l'Amérique autant par son ampleur que par l'incongruité des décisions politiques prises. Michael Glasgow, superviseur du laboratoire et de la qualité de l'eau de Flint, ainsi que Stephen Bush et Michael Presby, employés au département de la qualité environnementale de l'État, ont été formellement inculpés, respectivement de 2, 5 et 6 chefs d'accusation, par un juge du tribunal de Genesee dans le Michigan, a expliqué Bill Schwett, le procureur général de cet État du Nord des États-Unis. Les inculpés auraient notamment modifié les résultats des tests d'eau dans le but de baisser le taux de contamination au plomb qu'ils savaient pertinemment au-dessus des normes, mettant en danger la santé des familles et des citoyens de Flint, a expliqué le procureur général, et d'ajouter que ses employés avaient le devoir de protéger la santé des habitants de la ville, désormais engagés dans un chantier pharaonique pour entièrement refaire son réseau de distribution d'eau.
Ici, aux États-Unis, les écoles d'un comté de l'État américain du Colorado vont armer leurs gardiens, déjà munis de pistolets, avec des fusils semi-automatiques pour protéger élèves et professeurs d'un éventuel tireur, ont indiqué à l'AFP mercredi leurs représentants. Suite aux leçons tirées des fusillades dans d'autres écoles, y compris dans le Colorado, nous pensons que notre priorité doit être d'assurer à tout moment la sécurité de chaque élève, chaque parent ou membre de la communauté qui se trouve sur notre propriété, a expliqué à l'AFP la porte-parole de la zone scolaire concernée, Paula Hans. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco, John Linden.
Pour la première fois, une femme noire va figurer sur un billet américain. Jack Liu, le secrétaire au Trésor, en a fait l'annonce hier. Le nouveau billet de $20 portera donc le portrait de l'abolitionniste et ancienne esclave Harriet Tubman, qui a vécu de 1822 en 1913. Cette annonce met fin à un suspense qui tient en haleine les Américains depuis presque un an. L'impression du nouveau billet ne devrait toutefois pas intervenir avant 2030, selon plusieurs médias américains. Les revenus pétroliers, principales ressources de l'Algérie, ont enregistré une chute de près de 40% au premier trimestre de cette année, rapportant 5,5 milliards de dollars contre 9,1 milliards de dollars au premier trimestre 2015. Ce plongeon est dû à la baisse continue des cours du pétrole depuis juillet 2014. Pour la troisième année consécutive, la Banque africaine de développement, la BAD, est répertoriée parmi les 10 organisations les plus ouvertes au monde, selon le classement 2015 des organisations de développement publié par le think tank britannique Publish What You Fund, publiez ce que vous financez. D'après le Financial Afrique, ce rapport évalue la transparence des 48 organisations de développement, notamment la Banque mondiale, le PNUD ou encore la BAD.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Idrissa.
Ligue africaine des champions, huitième de finale retour, coup de tonnerre, élimination du tenant du titre.
Et oui, le tout-puissant Mazembe qui ne défendra pas son trophée. Le tenant du titre congolais a été éliminé en concédant le nul face au Wakasa Blanca. Un but partout. On se souvient que les Marocains l'avaient emporté 2-0 à Casa. De la tête, Salif Koulibaly catapultait le ballon au fond des filets pour les Corbeaux. On croyait alors que le tout-puissant Mazembe allait pouvoir renverser la vapeur, mais il n'en fut rien. Et finalement, ce sont les Marocains qui ont réussi à égaliser dans les arrêts de jeu. Un but partout, score final. Les Congolais rentrent à la maison. Élimination pour les hommes d'Hubert Velude. Mais la République démocratique du Congo a le sourire ce matin, puisque l'autre équipe, l'AS Vita Club, les Dauphins Noirs, se sont qualifiés malgré la défaite 2-1 en Afrique du Sud sur la pelouse du Mamelodi Sundowns. Les hommes de Florent Ibenge défendront donc les chances de la RDC lors de la phase de poule.
Autre compétition, la Coupe de la Confédération.
Oui, la qualification des Gabonais du CF Mounana, le club qui élimine le club égyptien d'Empipi.
Bonne nouvelle pour Pierre-Emerick Aubameyang.
Incertain, car blessé à un orteil lors d'un choc à l'entraînement lundi, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement pu tenir sa place lors de la demi-finale de Coupe d'Allemagne qui opposait son club du Borussia Dortmund au Hertha Berlin. Victoire 3-0 de son équipe. L'international gabonais est particulièrement prolifique en Coupe nationale. Il a marqué 10 buts en 13 matchs joués depuis son arrivée à Dortmund. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Premier tour des playoffs, match 2. Eh bien, conférence Est, Miami mène sa série avec Charlotte, 2-0 en battant les Hornets 115-103. De son côté, Cleveland mène sa série avec Détroit, 2-0 en battant les Pistons 107-90. Conférence Ouest, même chose pour les Clippers face aux Trail Blazers. Avec la victoire de cette équipe, l'autre équipe de Los Angeles, sur Portland, 102-81. Voilà, c'est tout pour la NBA. De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Élection présidentielle au Tchad, l'opposition démocratique menace de ne pas reconnaître les résultats si la CENI, Commission électorale nationale indépendante, déclare gagnant dès le premier tour le président sortant Idriss Déby Itno. Elle entend former son propre gouvernement de salut national. De N'Djamena, André Kotmadingar.
Cette décision intervient 24 heures après qu'ils aient retiré leurs délégués dans le processus du recensement des résultats des procès-verbaux et du décompte des voix centralisées à la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Ces partis politiques de l'opposition reconnaissent qu'il y a eu un fort taux de participation des électeurs à cette consultation électorale qui espèrent obtenir un changement à travers les urnes. Mais ces candidats de l'opposition accusent le parti au pouvoir d'avoir organisé des fraudes massives pour faire passer au premier tour le candidat Idriss Déby Itno, alors que, selon eux, les résultats dont ils disposent montrent qu'aucun candidat ne peut remporter cette élection au premier tour. Dans une déclaration commune, les candidats de l'opposition menacent de former un gouvernement parallèle si la CENI proclame gagnant au premier tour le président sortant Idriss Déby Itno. Mahamat Amat Alabo est le candidat du PLD, Parti pour les libertés et le développement.
L'on constate curieusement une grande fébrilité du parti au pouvoir, désireux de l'emporter dès le premier tour par un passage en force du candidat Idriss Déby Itno. Les candidats opposés à Idriss Déby Itno mettent solennellement en garde la CENI et le Conseil constitutionnel contre toute tentative d'avaliser le hold-up électoral du MPS. Décide de défendre la vérité des urnes largement favorable au changement par une alternance politique apaisée. En conséquence, il décide de ne pas reconnaître toute institution issue de ces hold-up électoraux et prenne la lourde responsabilité historique de se réserver le droit, le cas échéant, de mettre en place un gouvernement de salut public pour répondre aux aspirations du peuple tchadien souverain.
Pour Dobian Asingar, président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et délégué de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH auprès de la CEMAC, la CENI doit prouver son indépendance pour éviter le pire.
Puisqu'il n'y a rien qui puisse leur garantir le résultat, c'est tout à fait normal qu'ils ne puissent pas reconnaître les résultats qui seront publiés. Nous sommes dans une poudrière. Il faut craindre donc des conflits post-électoraux à ne pas en finir. C'est à la CENI de jouer son rôle pleinement. Si une partie se trouve lésée, ça veut dire que l'arbitre n'a pas joué correctement son jeu. Donc tout cela va se retourner contre la CENI qui n'a pas su être le bon arbitre.
André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Au Bénin, une partie des citoyens disent ne pas savoir, ne pas comprendre le bien fondé de la rencontre qui a abouti à la réconciliation entre l'ancien président Yayi Boni et son successeur Patrice Talon. Il qualifie cette rencontre, facilitée par les présidents togolais et ivoiriens, de diversion pour eux. L'ancien président cherche à se procurer une certaine immunité parce que les réformes pourraient mettre à nu les scandales qui ont jalonné les 10 ans passés. Alors, que pensent les observateurs de la vie sociopolitique de cette rencontre entre les deux hommes? Eh bien, de Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur Adandé.
L'image montrant l'accolade entre Patrice Talon et Yayi Boni donne à Cotonou de l'ulcère à certains qui ne comprennent pas comment l'actuel président, après avoir été tant persécuté et contraint à l'exil, puisse tout effacer d'un trait. Les moins passionnés accusent l'ancien président de contraindre son successeur à une promenade inutile pour des intérêts inavoués. Le rapprochement entre les deux hommes en terre ivoirienne est mal vu. Une bonne partie des Béninois pensent que le voyage sur Abidjan reste une humiliation pour le Bénin, une perte de temps énorme pour le président Talon qui se doit d'être concentré pour réussir la mission qu'il s'est assignée. Le président de l'ONG Alcrer, Martin Assogba, ne cache pas son amertume.
Laissez le président Patrice Talon s'occuper des problèmes de pauvreté, des problèmes d'électricité, des problèmes de manque d'eau, où les gens qui ont composé avec Yayi Boni ont bouffé l'argent de l'eau des pauvres populations. On ne parle pas de ça. Moi, je demande au président Patrice Talon d'avoir la tête sur les épaules. C'est le peuple peuple béninois qu'il a élu et le peuple béninois a des exigences vis-à-vis de lui pour les 5 ans que lui-même a promis faire au cours de son investiture. Il a dit qu'il fera de l'impunité et de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Nous l'attendons.
Mais il y en a tout de même qui pensent que cette rencontre permettra au président élu de travailler dans la paix et la quiétude.
Moi, j'applaudis. Parce que si vous voulez la paix ne s'achète pas. Il faut vraiment l'humilité. Regardez ce qui se passe chez les Soudanais. La République soudanaise est divisée en deux. Vous voulez ça dans le pays ? Je les remercie encore et je remercie l'humilité du président Talon.
Les acteurs de la société civile appellent l'ancien président à quitter les projecteurs pour la retraite qui lui revient de droit depuis le 6 avril dernier afin que le nouveau président puisse se consacrer à relever ce pays qui reste dans une position très inconfortable dans bien de domaines.
Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas de réconciliation à ne plus en finir. Les gens veulent aller de l'avant. Nous n'avons plus 5 ans, on est à 4 ans, quelques jours. Donc, qu'on se préoccupe de ce qui est important, ce qui va redonner confiance à nos enfants, à nos jeunes frères. Ces réconciliations, gardez-les pour demain. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par autre chose, l'avenir du Bénin.
Le président Talon doit faire l'état des lieux, qu'on veuille ou pas, les concours frauduleux. Nous allons décortiquer tout ça.
Quoi qu'il en soit, il faudra que les deux hommes arrivent à calmer les militants zélés de part et d'autre afin d'éviter des tensions larvées, véritable danger pour la paix chèrement acquise. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Côte d'Ivoire, le malaise est profond 5 ans après la fin de la crise post-électorale de 2011, a déploré hier le responsable national en charge de la réconciliation. Les précisions de Lionel Gahima.
Monseigneur Siméon Aouana, président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, a déclaré hier qu'il convient de mettre l'accent sur les initiatives en faveur de la réconciliation. C'était pendant la cérémonie de remise au président Alassane Ouattara du rapport de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, la CONARIV. Pour Monseigneur Aouana, des poches de division subsistent malgré les efforts, les cœurs sont encore chargés de rancœur et d'esprit de vengeance. La CONARIV a remplacé la Commission Vérité et Réconciliation au bilan mitigé. Sur les 800 000 demandes de compensation qu'elle a reçues, près du tiers ont été rejetées. Françoise Ofumu est commissaire de la CONARIV.
Le défi essentiel, c'était au niveau des vérifications des dossiers. Il y a eu des cas de doublons, des cas de dossiers où il n'y a pas eu de pièces jointes, et puis il y a eu des cas de fraude aussi.
Les réclamations ont été classées en 4 catégories. Violence basée sur le sexe, blessures graves, meurtre, disparition forcée et propriété détruite. 84% des demandes de dommagement sont rangées dans cette dernière catégorie. Idrissa Diaby, président d'une association des victimes.
De voir la CONARIV remettre la liste des victimes au président de la République en vue de l'exécution des différents programmes en faveur de leurs droits.
L'année dernière, une liste partielle de quelque 24 500 victimes de la crise post-électorale a été dressée. Certaines ont déjà reçu des compensations. Cependant, les orphelins, veuves et ceux qui resteront handicapés à vie auront besoin d'une aide à long terme. Idrissa Diaby, président d'une association de victimes.
La réinsertion sociale est un acte fort pour préserver la Côte d'Ivoire dans le futur des violences subies.
De son côté, le président Ouattara a promis de jouer sa partition en faveur de la réconciliation et a demandé aux Ivoiriens encore exilés de rentrer au pays. Au pouvoir en 2011, au terme de la crise post-électorale qui avait fait près de 3000 morts, le chef de l'État ivoirien a été réélu en octobre dernier pour un second mandat de 5 ans.
Eh bien, 10 jeunes de 18 à 24 ans ont été reconnus vendredi par le département d'État américain comme étant des leaders émergents à travers le monde. 10 jeunes dont les efforts pour créer un changement social constructif ont été salués. Parmi eux, Samuel Grybowski. Il est français, a 16 ans. Il a créé Coexister, une association pour permettre à des jeunes issus de différentes religions de partager leurs expériences individuelles. Maëlie Hegel était à la cérémonie de remise des prix et a parlé à Samuel Grzybowski. Samuel Grzybowski, un des 10 gagnants du prix de leader émergent et fondateur de Coexister.
Dans Washington Forum cette semaine, montée de l'islamophobie dans le monde, focus sur les récentes déclarations aux États-Unis et en Europe. Le terrorisme, première cause de ce phénomène. Comment réagit la communauté musulmane en Afrique et ailleurs ? Enjeux électoraux, amalgame, le monde se dirige-t-il vers une nouvelle guerre des religions ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez Tatiana Mosso dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.